Merci.
Je voudrais rappeler en quelques mots, alors qu'on l'a vu au mois de septembre, pourquoi la méditation est vraiment la méthode, le moyen qu'utilise le bouddhisme pour se libérer de la souffrance. La libération de la souffrance est l'objectif de toute la voie bouddhiste qu'on appelle le dharma. Le dharma n'a pas d'autre objectif que cette libération de la souffrance. Et on ne peut se libérer de la souffrance que par le biais de la méditation. Pourquoi ? Tout le dharma enseigne que notre souffrance et notre bonheur ne viennent pas fondamentalement des situations dans lesquelles on se trouve, mais plutôt de la façon dont nous réagissons par rapport aux situations dans lesquelles nous nous trouvons. Les circonstances, les situations sont ce qu'elles sont. Et si elles étaient en elles-mêmes la cause de notre souffrance, tous les êtres qui vivraient cette situation, la vivraient de la même façon les uns des autres. Or, il y a une différence d'expérimentation de ces circonstances, de ces situations. Donc c'est notre esprit qui vit telle ou telle situation. Et c'est notre esprit qui souffre de par un certain comportement, et c'est en même temps notre esprit qui se libère de la souffrance occasionnée par le contact avec ces situations. Et c'est donc le comportement de notre esprit, le fonctionnement de notre esprit qui est cause de souffrance ou cause de notre libération. Et c'est pourquoi la méditation est tellement importante. Alors méditer ne veut pas dire simplement être concentré sur un point, sur un support, mais méditer, en plus de cette concentration, veut dire comprendre ce fonctionnement et comprendre en quoi ce fonctionnement, dans son mode de fonctionnement ordinaire, est cause de souffrance pour nous. Ça, c'est extrêmement important de comprendre ce fonctionnement de l'esprit. Si nous le comprenons, alors il va être évident que nous allons vouloir le changer, modifier ce fonctionnement. Si nous ne le comprenons pas, nous aurons toujours tendance à mettre la responsabilité de notre souffrance sur telle ou telle situation, sur un tel, une telle, etc. Fondamentalement, c'est notre esprit qui, parce qu'il se scotche, parce qu'il se fixe sur l'objet, entre guillemets, dont il prend contact, qui est cause de ce mal-être, de ce qu'on appelle le dukkha, de cette souffrance, de cette frustration, de cette insatisfaction, etc. Et ça, nous devons vraiment expérimenter pendant la méditation, mais aussi par l'observation de notre esprit dans notre vie quotidienne, combien notre esprit souffre, mais parce que simplement, il se fixe sur les choses, sur les objets avec lesquels il est en contact. Et c'est cette fixation, ce qu'on appelle cette saisie, le fait de saisir l'objet, de s'identifier, de devenir un avec cet objet, eh bien, qui engendre toutes les différentes facettes de souffrance que nous éprouvons. Nous avons vu le mois dernier qu'il y a 6 facteurs qui empêchent la réalisation de cette nature de l'esprit. En fait, ces six facteurs qui sont favorables au développement des émotions perturbatrices ou ce qu'on appelle les facteurs perturbateurs. Ces 6 points que nous avons développés le mois dernier, eh bien, lorsqu'ils sont présents dans notre esprit, les facteurs perturbateurs tels que la jalousie, l'orgueil, l'attachement, le désir, l'indifférence, etc., eh bien, apparaissent et se développent dans notre esprit. Alors ce soir Et puis les mois suivants, je voudrais qu'on voit comment on peut manager d'une certaine façon avec ces facteurs perturbateurs. Et je vais m'appuyer pour ça sur trois enseignements du précédent Kalu Rinpoche, qui, je trouve, détaille bien la façon d'appréhender ces facteurs perturbateurs. Mais faut-il encore que dans notre esprit, eh bien, nous en ayons assez de ces facteurs perturbateurs? Et c'est là où se situe le renoncement. Et nous ne pouvons pas pratiquer le dharma, nous ne pouvons pas pratiquer la voie bouddhiste sans un développement de ce renoncement aux facteurs perturbateurs. Est-ce que nous avons vraiment envie de mettre un terme à notre colère, à notre jalousie, à notre haine, à notre aversion, à notre désir, à notre attachement, à notre avidité, à notre indifférence, par exemple, à notre orgueil? Est-ce que vraiment on a envie de mettre un terme à tout cela, quoi? Ou au contraire, est-ce qu'on se trouve à peu près bien dans lorsqu'on manage tant bien que mal avec ces facteurs perturbateurs? Bien. Voilà. Donc, je vais m'appuyer pour ça sur un premier enseignement. L'ancien Kalu Rinpoche, le précédent Kalu Rinpoche, a donné à Vancouver en juin 1982. Mais je trouve qu'il développe de façon assez complète ce premier point, qui est en fait comment appréhender ces facteurs perturbateurs ou renoncer à ces facteurs perturbateurs selon tout d'abord le Hinayana. Vous savez que dans le bouddhisme, il y a ce qu'on appelle le Hinayana, le petit véhicule. Et puis il y a le grand véhicule, le Mahayana, et dans le grand véhicule, vous avez le grand véhicule qui s'appuie sur les sutras. Quelles sont les écoles qui sont du grand véhicule selon les sutras? Le zen, le bouddhisme zen, le bouddhisme chan en Chine. Ça, c'est vraiment le grand véhicule selon les sutras. Et puis la deuxième branche du grand véhicule qui s'appuie sur les sutras et les tantras, c'est ce qu'on appelle le Vajrayana, c'est-à-dire le bouddhisme tibétain. Voilà. Donc on verra comment on appréhende les facteurs perturbateurs ou les émotions perturbatrices selon le petit véhicule, selon le grand véhicule sutra et selon le grand véhicule le Vajrayana, c'est-à-dire le grand véhicule tantra. Et on va voir ce soir, eh bien, selon le Hinayana. Il ne faut pas se dire que parce que nous sommes dans le pratiquant du grand véhicule, que la façon de méditer selon le Hinayana ou le petit véhicule est une façon qui ne nous concerne pas. Rinpo Rinpoche l'a rappelé lors d'un séminaire. En fait, il ne faut pas trop distinguer les enseignements du Bouddha, selon, moi je suis dans le Vajrayana, donc je n'étudie que les enseignements du Vajrayana, et puis les enseignements du petit véhicule, eh bien, au thaïlandais ou au cambodgien, voilà. Rinpoche précisait que dans tous les véhicules, il y a des éléments à prendre, et dont il faut entraîner notre esprit. Et ce peut être des moyens qui, à un moment donné, eh bien, nous permettent de travailler sur le fonctionnement de notre esprit. Tous ces moyens ont été enseignés par le Bouddha lui-même, et peu importe de savoir si c'est un moyen du petit, du grand véhicule, à partir du moment où ce moyen nous permet de travailler sur les facteurs perturbateurs et sur le fonctionnement de notre esprit, eh bien c'est un moyen qui nous convient. C'est tout. Alors tout d'abord, Rinpoche explique que l'approche du Hinayana constitue une tradition d'une grande valeur très profonde, permettant d'obtenir un état de libération individuelle qui n'est pas pour autant le complet éveil. Le Hinayana, dit-il, me paraît peu adapté à l'Occident. Et on voit dans le développement du bouddhisme en Occident, peu d'Occidentaux qui s'intéressent vraiment au petit véhicule. Quand on parle du petit véhicule, il faut voir les pays les plus représentatifs comme étant la Thaïlande, le Sri Lanka, le Cambodge, le Laos, la Birmanie. Ces pays-là représentent vraiment ce qu'on appelle le Hinayana ou Theravada. On va plutôt parler du Theravada plutôt que Hinayana ou petit véhicule. C'est moins, il y a peut-être moins de connotations péjoratives dans le terme Theravada qui littéralement veut dire l'école des anciens. Pourquoi les Occidentaux ne sont pas très attirés par le Theravada? Parce que nous vivons dans l'opulence. Nous vivons dans les biens matériels, nous vivons beaucoup dans le désir, et le petit véhicule, enfin le Theravada, eh bien, il base toute sa pratique sur le rejet de tout ça. Donc c'est assez, on va dire, peut-être difficile pour les Occidentaux. Voilà. La pratique du petit véhicule requiert en effet de rejeter complètement toute implication dans le monde, de fermer les portes du corps, de la parole et de l'esprit, de ne plus porter aucun intérêt à la vie, à l'activité ordinaire et d'éviter toute distraction. Ça, c'est la base du Theravada. Je ne sais ce que d'autres en pensent, mais pour ces raisons, le Hinayana me paraît peu adapté à l'Occident, dit Rinpoche. En Europe et en Amérique, la prospérité, l'abondance de biens matériels sont telles qu'on se croirait presque dans le monde des dieux. La richesse et la variété de ce qui est offert aux sens par les spectacles, les jeux, la télévision, le cinéma, la radio, etc., produisent un environnement sollicitant continuellement l'intérêt et multiplient les sources de distraction. Les enfants reçoivent par ailleurs une éducation qui les laissant très libres de leurs choix et de leurs actes et ne donnant pas l'habitude de la discipline, ouvre le champ à la dispersion et aux émotions conflictuelles, dit Rinpoche. La rigueur et l'attitude de renoncement du Hinayana n'y trouvent donc pas un terrain favorable. Vous êtes d'accord avec ça? Quand on parle de discipline dans le bouddhisme, il y a la moitié de la salle qui se vide. Et si vous rajoutez le mot renoncement, il y a l'autre moitié qui se vide. Discipline et renoncement, c'est vraiment deux termes. Personne n'aime, quoi. Et pourtant, il faut bien discipliner son esprit. Il faut bien entraîner son esprit. Utilisez le mot entraînement, si vous ne voulez pas utiliser le mot discipline. Mais il faut bien entraîner son esprit à fonctionner autrement. À partir du moment où l'on constate que c'est ce fonctionnement-là de l'esprit, eh bien, qui entraîne toute la souffrance et qui entraîne les facteurs perturbateurs. Mais si on ne le discipline pas, si on n'entraîne pas notre esprit à fonctionner autrement, eh bien, les facteurs perturbateurs seront toujours là. Et comme on le voyait le mois dernier, mais observez ce qui se passe dans le monde, comment les gens vivent, comment les êtres causent de la souffrance pour d'autres êtres, à partir de quoi? Qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui guide leurs actes? C'est les facteurs perturbateurs. Il faut vraiment être sûr de cela. Il faut vraiment observer cela. Voyez toute la violence que les êtres occasionnent à d'autres êtres. Que se passe-t-il dans leur esprit lorsque ils sont en train de tuer ou de faire souffrir un autre être d'une façon ou d'une autre, par le corps, par la parole ou simplement par la pensée? Ce sont des facteurs perturbateurs, de l'avidité, de la haine, de l'indifférence, de la jalousie, de l'orgueil, etc. Mais ce sont les facteurs perturbateurs qui sont les moteurs des actes négatifs. Et ça, il faut que tout le monde soit bien conscient de cela. Et ces facteurs perturbateurs, étant le moteur de l'esprit, ils s'élèvent dans l'esprit. Et personne ici n'est à l'abri ou peut dire « Non, non, moi je n'ai pas ces facteurs perturbateurs. » Nous avons tous ces facteurs perturbateurs. À un degré peut-être moindre que celui qui va trucider quelqu'un. Je suis d'accord. Mais dans une journée, combien d'êtres, par notre attitude, notre comportement, nous pouvons faire souffrir? Et ça, c'est méditer veut dire prendre conscience de cela. Si nous n'avons pas conscience de cela, mais pourquoi méditer? Pourquoi vouloir transformer ce fonctionnement de l'esprit? Et c'est ça le renoncement, le véritable renoncement. Et le renoncement est associé à la discipline. Discipline veut dire, oui, entraîner notre esprit à fonctionner autrement. Mais on veut entraîner notre esprit à fonctionner autrement parce que nous renonçons à ce mode de fonctionnement, parce que nous constatons que sous l'emprise de ce mode de fonctionnement, eh bien, nous sommes à l'origine de beaucoup d'actes négatifs, de beaucoup de paroles négatives, de beaucoup de pensées négatives, et que nous pouvons avoir plusieurs fois par jour des attitudes, eh bien, qui sont cause de souffrance pour autrui. Où est l'idéal du bodhisattva là-dedans? Où est notre attitude, ce qu'on appelle la bodhicitta, c'est-à-dire l'esprit d'éveil, le désir de développer la compassion, l'amour, la bienveillance, etc. Si nous ne renonçons pas à ce mode de fonctionnement, l'amour, la compassion, la bienveillance, ce sont des souhaits. Mais en quoi ces qualités vont s'établir et se développer dans notre esprit si nous ne renonçons pas à ce qui fait obstacle à leur développement? Et ça, c'est tout ce qu'apporte la méditation. Donc il faut associer le fait de méditer, d'entraîner notre esprit, eh bien, à la transformation de ce comportement, de ce fonctionnement de l'esprit. Et il n'y a pas à se juger de façon négative parce que nous avons ces facteurs perturbateurs. Tous les êtres ont ces facteurs perturbateurs. Le Bouddha avait lui-même ces facteurs perturbateurs. Tous les maîtres aujourd'hui avaient ces facteurs perturbateurs. Mais ils ont pris conscience de cela, ils ont pris l'engagement, de travailler sur ces facteurs perturbateurs, sur ces tendances de l'esprit, sur les empreintes karmiques. Tout cela, nous avons vu ça le mois dernier. Et ils ont associé leur pratique à ce souhait de transformation. Donc c'est quelque chose qui doit être déterminé, qui doit être puissant dans notre esprit. À un moment donné, un jour ou l'autre, il faut dire « ça, j'en ai assez de ça, quoi ». Je considère ça comme une dépendance. Parce que tant que je peux contrôler mes facteurs perturbateurs, ça va à peu près. Mais il y a des actes que j'accomplis alors que mon esprit est totalement sous la dépendance de ces facteurs perturbateurs. Si je suis dépendant, je ne suis pas libre. Et l'objectif du Dharma, l'objectif de la voie bouddhiste, c'est la libération. De quoi se libère-t-on? De quoi cherche-t-on à se libérer? De cette dépendance. Et le renoncement, c'est ça. Il ne s'agit aucunement de renoncer à votre famille, à votre voiture, à votre situation professionnelle, à votre compte en banque, etc. Mais nous devons renoncer à ces facteurs perturbateurs. Ce sont des véritables poisons pour nous-mêmes et pour autrui. Parce que quand notre esprit est sous l'emprise de ces facteurs perturbateurs, eh bien nos actes éclaboussent tout le monde. La souffrance que les êtres occasionnent à d'autres êtres dans le monde est liée à des actes accomplis sous l'emprise des facteurs perturbateurs. Observez ce qui se passe dans le monde et observez ce qui a pu se passer dans l'esprit de cette personne qui a agi de cette façon-là vis-à-vis de telle autre personne. Vous trouvez automatiquement un facteur perturbateur, dans ce cas-là, extrêmement puissant. Voilà. Alors, dans le Theravada, dans le petit véhicule, pour travailler sur ces facteurs perturbateurs, eh bien, on va éviter le contact avec ce qui peut faire déclencher ce facteur perturbateur. Toutes les règles dans ces pays du sud-est asiatique, eh bien, sont basées sur pas de contact avec ce qui peut faire naître du désir dans mon esprit. pas de contact avec une situation qui peut faire naître de l'aversion ou de la haine. Pas de contact avec ce qui peut faire naître de l'avidité. Et toutes les règles monastiques, par exemple, en Thaïlande, sont basées là-dessus. C'est facile à comprendre, si je n'ai pas de contact avec cet objet, entre guillemets, eh bien, effectivement, le désir, l'avidité, l'aversion ne vont pas naître dans mon esprit. Mais c'est très compliqué à vivre. Parce qu'il faut vivre pratiquement dans une bulle, quoi. Et c'est pourquoi en Thaïlande, dans ces pays du Theravada, les monastères sont tellement développés. Et que tous les hommes, pas les femmes je crois, mais en tout cas tous les hommes, comme nous autrefois qui faisaient le service militaire, eh bien encore aujourd'hui en Thaïlande, tous les hommes, le roi y compris, eh bien doivent vivre, je crois, 6 mois dans leur vie, dans un monastère, pour s'entraîner à cette discipline. Il y a d'autres façons de travailler sur notre esprit. Et ça, on verra ça dans le Mahayana, on travaille là-dessus. On travaille sur les facteurs perturbateurs. Mais, à la base, on ne peut pas travailler selon le Mahayana et selon le Vajrayana s'il n'y a pas ce renoncement à ces facteurs perturbateurs. Et il ne faut pas voir que le renoncement, c'est quelque chose qui ne concerne que le Theravada, que le petit véhicule. Ça devrait concerner absolument tous les pratiquants bouddhistes. Et le renoncement, ça se travaille, ça se décide, c'est un engagement, mais ça se travaille absolument tous les jours. Et il n'y a pas de miracle dans le renoncement. Ce n'est pas parce que je décide de renoncer que eh bien demain je n'aurai plus de facteurs perturbateurs. Non, il faut être conscient de comment réagit mon esprit quand il entre en contact avec telle ou telle situation. Ma collègue de travail, je ne peux pas la sentir, parce qu'elle a une attitude qui est comme ci, comme ça, peu importe le pourquoi, mais mon esprit réagit de cette façon-là. Même si je décide de ne plus avoir, par exemple, d'aversion, demain au boulot, en arrivant au boulot, il va y avoir contact avec cette collègue de travail. Eh bien, l'aversion va réapparaître dans mon esprit. Et que je le veuille ou non, cette aversion va réapparaître. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Comment est-ce que je travaille avec cette aversion qui naît dans mon esprit? Donc, c'est du concret. Le renoncement, c'est du concret et ça se travaille jour après jour, quoi. Dans le petit véhicule, eh bien, on parle des 4 attentions, de l'établissement des 4 attentions. L'attention au corps, l'attention aux sensations, la complète attention à l'esprit et l'attention aux phénomènes. Alors, l'attention portée au corps, elle est fondée sur l'assimilation que nous faisons de notre personne à notre corps. Alors, Rinpoche explique que dans cette technique, l'esprit est fixé sur ce simple sentiment d'être le corps sans y ajouter aucun jugement ni aucune appréciation du type « ce corps est une bonne chose » ou « il est une mauvaise chose », »,« il est plaisant » ou « il est douloureux », »,« il est en bonne santé » ou « en mauvaise santé », »,« il existe ou il n'existe pas », etc. On est seulement présent à l'impression d'avoir un corps, sans aucune distraction. Et cette approche comprend de nombreuses méthodes, et celle-ci n'est qu'une d'entre elles. Donc à travers le corps, les sensations vont être éprouvées. Si nous avons une sensation de froid, nous prenons conscience qu'il y a cette sensation de froid. Sans la rejeter ou sans l'apprécier. Simplement être conscient de cette sensation que mon corps éprouve. Idem pour la chaleur. Vous savez, ça paraît simple, mais en été, au-dessus de 28 degrés, tout le monde râle, quoi. Pour le moment, ça va, mais il pleut depuis 2 jours, ça va râler bientôt, quoi. Et vous allez voir si le froid s'installe, eh bien, dans 3-4 jours de neige ou de froid, ça va râler, quoi. Et tout le monde trouve l'hiver trop long, etc. C'est juste prendre conscience, eh bien oui, qu'il y a cette sensation-là. Quand vous êtes au mois de janvier ou au mois de décembre et qu'il fait froid et qu'il y a de la neige, Bah écoutez, c'est normal, hein. C'est normal. Et pourquoi est-ce que nous râlons? Parce que nous nous identifions à cette sensation et elle est vue comme déplaisante. Elle peut être perçue comme déplaisante. Mais pouvons-nous changer la situation, quoi? Et simplement être conscient de ce fonctionnement de l'esprit. Et c'est mineur comme réaction par rapport à ces sensations. Mais quand l'hiver dure un peu et qu'au mois de mars, au mois d'avril, il fait toujours froid, humide, etc., les gens en ont, mais jusque-là, quoi. Et ils ne parlent que de ça. Et tout le monde est fatigué, tout le monde se sent mal, tout le monde est irrité, rien ne va plus, quoi. C'est juste un fonctionnement de l'esprit par rapport à un phénomène sur lequel se pose notre esprit. Et on interprète constamment, et on a une perception qui est déformée par les conditionnements de notre esprit. Ça, c'est dukkha. Alors, c'est pas dukkha dans le terme de « oui, on crée une souffrance pour autrui », etc. Mais notre esprit n'est pas paisible. Notre esprit n'est pas tranquille. Et alors on croit que, oui, dès qu'il va faire beau, ben, notre esprit sera beaucoup plus paisible. Ben oui, au bout de 8 jours de beau, on en a déjà assez, quoi. Il fait trop beau, il fait trop chaud, etc. C'est-à-dire qu'il y a une insatisfaction permanente dans notre esprit, quoi. Voilà. Eh bien ça, c'est prendre conscience des sensations, du fonctionnement de notre corps par rapport au contact que nous établissons avec les éléments, quoi. Donc voilà, à travers le corps, les sensations variées sont éprouvées, le choix, le chaud, le doux, le rugueux, etc. Lorsque, quelle que soit la sensation perçue, là encore sans jugement, l'esprit reste concentré sur elle, sans distraction, eh bien c'est la seconde complète attention par rapport aux sensations. Et l'esprit reste en paix. Alors ça, c'est une pratique qui est très développée dans le Theravada. Ensuite, il y a la troisième sorte d'attention porte sur les ressentis de l'esprit. La joie, la tristesse, hein, le mécontentement, le bonheur, n'importe quel type de mouvement mental. On en fait tout un plat, on en fait toute une histoire aussi. Je me sens pas bien aujourd'hui, voilà, je suis un peu déprimé, ça va pas moralement, etc. Il y a des jours où on n'avait même plus envie de poser la question « comment allez-vous ?» quoi. Vous êtes presque anormal si vous répondez « tout va bien ». Mais ça, c'est dukkha. C'est dukkha. Et ça, dans le Theravada, ben, c'est très développé, quoi. Même, pas seulement dans le Theravada. Un Rinpoche, par exemple, vous lui demandez comment il va toujours bien. Et c'est flagrant. Tous les Rinpoche, vous les rencontrez. Alors, comment allez-vous aujourd'hui, Rinpoche? Oh, very well. Tout va bien. Et ils vont toujours bien, même quand ils sont en train de mourir. Ils vont très bien. J'ai appris là dernièrement qu'il y a un Rinpoche à Paris, je sais pas, Rinpoche, qui est décédé à cause d'un champignon. Hein. Tout le monde avait ramassé des champignons, toute la sangha avait ramassé des champignons, il mangeait des champignons depuis 15 jours, personne n'a été malade. Il devait y avoir un champignon mauvais dans le tas. C'est Rinpoche qui l'a mangé, il en est mort. Mais jusqu'à la fin, il disait, bon, bah, oui, je suis en train de mourir, tout va bien, quoi. C'est-à-dire que, bon, pour en arriver là, je veux dire, au seuil de la mort, et dire, pas de problème, tout va bien, je suis en train de mourir, c'est ce qu'il disait, hein. Eh bien, il faut quand même s'être entraîné, quoi. Et cet entraînement-là, eh bien, c'est dans notre vie quotidienne, par rapport à nos petits bobos, par rapport à notre mal-être. Aujourd'hui, ça va pas si bien que ça. Aujourd'hui, je me sens pas... pas très bien, oui, et alors? Et on en fait tout un plat, il n'y a qu'à voir le week-end à Luce, mais tout le monde parle de ces petits bobos, quoi, qu'on a vécu dans la semaine, etc., de nos petits mal-êtres, etc. C'est-à-dire qu'il y a une grosse saisie par rapport à tout ça. Notre esprit n'est absolument pas libre de ça. Notre conception du bonheur, eh bien, c'est être dépourvu du moindre mal-être. aujourd'hui, moindre petit mal de tête, il faut surtout que dans les 10 minutes, on ait un médicament qui fasse disparaître le mal de tête. Hein, on est dans une, en Occident, on est dans une civilisation vraiment de l'extrême confort, quoi. Vous allez en Inde, on se rend compte que les gens supportent beaucoup plus d'inconfort, voire de souffrance de la vie quotidienne, hein, que nous, quoi. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Il ne faut pas se dire, oui, je suis nul ou je suis négatif par rapport à ce mode de fonctionnement. Il faut simplement voir que nous fonctionnons comme ça, quoi. Et que nous sommes, en fait, dépendants de tout un état de choses extérieures à nous-mêmes, eh bien, qui nous en sommes dépendants pour notre conception de bonheur personnel, quoi. Or, c'est notre esprit qui est heureux. Est-ce qu'on ne peut pas lui apprendre à être paisible, tranquille, détaché, alors que nous avons ce petit bobo ou ce petit truc qui ne va pas très bien en nous, et après tout, voilà. Mais ça, il faut l'expérimenter, quoi. Et ça fait partie des différentes sortes d'attention. Attention, ça veut dire, eh bien, être attentif au fonctionnement de notre esprit par rapport à ce type de réaction que nous établissons à longueur de journée par rapport aux situations que l'on rencontre, par rapport aux phénomènes que l'on rencontre. C'est vrai que ça va à l'encontre un peu de notre fonctionnement ordinaire et spontané, on va dire naturel. Mais c'est apprendre comment nous fonctionnons, et à partir du moment où nous connaissons ce fonctionnement-là, nous pouvons le modifier et le changer, et donc nous libérer. La libération, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça ou qui va venir dans X années parce que j'ai médité, j'ai récité des tas de mantras, j'ai fait des tas de visualisations, j'ai fait tant de prosternes, etc. La libération, c'est le fruit de tout un entraînement de l'esprit. Si nous n'arrivons pas à libérer notre esprit par rapport à ce genre de inconfort de la vie quotidienne, je doute fort que la libération un jour s'installe comme ça, de façon miraculeuse, quoi. Et enfin, l'attention aux phénomènes se pratique de la même manière, s'appliquant aussi bien aux formes qu'aux sons, aux odeurs, etc. Beaucoup d'inconforts sont dus à ces phénomènes. Ici, ce n'est pas beau, ici, ça sent mauvais, ici... Ceux qui vont faire le voyage en Inde en mars, préparez-vous à ça. C'est pas toujours beau et confortable, quoi, les phénomènes qu'on va rencontrer. Il y a de très belles choses. Mais il y en a qui vont choquer un petit peu notre perception habituelle, quoi. Donc, il ne s'agit pas, par exemple, quand une forme est perçue par le regard, on ne cherche pas à s'en détourner. On n'y apporte non plus aucun jugement, ni aucun commentaire, ceci est beau ou ne l'est pas, je l'apprécie ou je ne l'apprécie pas. Mais on garde l'esprit posé sur l'objet perçu, sans distraction, simplement présent. Et on fait de même pour un son, une odeur ou tout autre objet des sens. Voilà, ça c'est la façon de porter notre attention sur les phénomènes. Donc dans ce type de Rinpoche dit, dans ce type de méditation, il faut comprendre que la notion d'esprit s'applique au présent. Tout ce qui s'est déjà produit dans l'esprit n'est plus là. Et ce qui se produira n'est pas encore là. Passé et futur ne sont pas réels. L'esprit dans le présent n'est pas marqué par le temps. Il n'a non plus aucune réalité matérielle, ni couleur, ni forme, ni volume, etc. En ce sens, il est la vacuité dans laquelle on tend à demeurer pleinement. Voilà. Donc, pour ce genre de méditation, il faut absolument revenir, placer notre esprit dans l'instant présent. Ce qui s'est passé, ce que nous avons expérimenté il y a 10 minutes, c'est complètement passé, ça n'a plus aucune existence. Ce que nous allons expérimenter dans 10 minutes, on verra quand ce sera là, dans 10 minutes. Mais actuellement, que vit notre esprit, comment vit notre esprit par rapport aux phénomènes, par rapport à notre corps, par rapport à nos sensations. Voilà. Ici et maintenant. Est-ce que nous sommes dépendants de l'interprétation, entre guillemets, qu'a notre esprit par rapport à ces phénomènes, ou est-ce que nous pouvons nous libérer de sa façon de fonctionner et surtout de sa façon de s'accrocher à ce qui se passe dans l'instant présent. Ça, c'est méditer. Donc la méditation n'est pas uniquement 20 minutes sur son coussin, ça c'est vraiment l'entraînement de l'esprit. Mais si nous savons établir cette attention par rapport au corps, aux phénomènes, aux sensations, et bien l'état d'esprit intérieur aussi, eh bien, nous méditons à longueur de journée. Ça demande en fait un état d'attention, un regard intérieur, un regard dans notre esprit. Comment mon esprit réagit par rapport à ce où je me trouve, ce que je suis en train de vivre, etc. Alors ensuite, dans toujours dans le Theravada, mais je répète, le Theravada, c'est la base. C'est la base, c'est les fondements du Dharma. Bokar Rinpoche, un jour, nous avait dit lors d'un enseignement, celui qui pense qu'il pratique le Vajrayana, donc le bouddhisme tibétain, avec tous ces éléments qui lui sont personnels, en termes de visualisation, phase d'achèvement, phase de création, récitation de mantras, etc. Celui qui pense qu'il pratique le Vajrayana et qu'il peut transformer toutes les situations qu'il vit selon le Vajrayana, alors qu'il n'entraîne pas son esprit au renoncement du petit véhicule, non seulement il ne pratique pas le Vajrayana, mais il ne pratique pas du tout le Dharma. Ça, Bokhari. Bokhari Rinpoche l'avait vraiment clairement signalé, quoi. C'est-à-dire que toute notre pratique, quels que soient les moyens par la suite que l'on va utiliser pour transformer notre esprit, doit reposer sur l'esprit du petit véhicule, c'est-à-dire sur la discipline de l'esprit, sur le renoncement. Dans le grand véhicule, il y aura la bodhicitta qui va se rajouter à cela. Mais quelqu'un qui pratique le Vajrayana et qui ne s'appuie pas sur ces deux piliers que sont le renoncement et la bodhicitta, eh bien, il ne pratique pas du tout le Dharma, du tout. Il a l'impression de pratiquer le Dharma, il a l'impression de pratiquer le Vajrayana avec des méthodes propres au Vajrayana, mais si ces deux piliers que sont le renoncement et la bodhicitta ne sont pas présents, eh bien, il ne pratique rien du tout de la voie du Dharma. Alors ensuite, il y a ce qu'on appelle les quatre renoncements justes. Après les quatre types d'attention, les quatre renoncements justes. Alors, ces quatre renoncements justes se situent sur le plan moral. Il prend d'une part conscience, le pratiquant prend d'une part conscience des actes négatifs qui ont déjà été commis. Pour les rejeter, c'est-à-dire les rejeter non pas avec aversion, mais pour regretter les actes négatifs que nous avons accomplis jusqu'à maintenant. Nous les regrettons parce qu'ils sont cause de souffrance pour nous et cause de souffrance pour autrui. Et il n'y a pas de transformation possible de l'esprit si nous n'avons pas conscience que nous avons accompli des actes négatifs. Et ça, on voit ça par exemple dans les quatre forces, l'établissement des quatre forces, la force du regret. Cette force du regret est vraiment très importante. On en a parlé, je crois, le mois dernier. Mais c'est la force du regret, c'est la prise de conscience, simplement la prise de conscience objective que nous avons accompli des actes négatifs. Il n'y a pas besoin d'en faire toute une histoire, il n'y a pas besoin de culpabiliser, d'avoir honte, d'avoir accompli des actes négatifs. Nous avons tous accompli des actes négatifs par le corps, par la parole et par la pensée. Pourquoi ? Parce que notre esprit était sous l'emprise de facteurs perturbateurs. Et comme disait Kalu Rinpoche, quand l'esprit est sous l'emprise d'un très puissant facteur perturbateur, eh ben, s'il est sous son emprise, il n'est absolument pas libre de fonctionner autrement. Et à ce moment-là, eh bien, on agit sous l'emprise de ce facteur perturbateur, et on pique une grosse colère, et on insulte tout le monde, et voilà. Mais en fait, il n'y a pas d'autre possibilité. Quand l'esprit est vraiment sous la puissance, par exemple, de la colère, de l'aversion, ça entraîne une façon d'être, ça entraîne un comportement, ça entraîne des actes. Donc il faut voir en fait que quand nous accomplissons un acte négatif, et non seulement nous-mêmes, mais pour autrui, et cette compréhension-là est importante pour développer la compassion. Mais quand nous constatons que nous accomplissons des actes négatifs, c'est parce que notre esprit est sous l'emprise de tel ou tel facteur perturbateur. Et la compassion, elle s'élève de cette compréhension. Quand quelqu'un occasionne de la souffrance pour autrui, son esprit est sous l'emprise d'un gros facteur perturbateur aussi, extrêmement puissant, qu'il ne peut absolument pas contrôler. En fait, l'acte est accompli comme, j'allais dire, comme si notre esprit était esclave de ce facteur perturbateur. C'est notre esprit qui est responsable de nos actes. Ce sont les facteurs perturbateurs qui sont responsables de nos actes négatifs. Voilà pourquoi il faut renoncer à ces actes négatifs, les regretter, mais renoncer aussi à la cause de ces actes négatifs. C'est en fait les facteurs perturbateurs. Et si nous ne méditons pas, si nous ne transformons pas, si nous n'entraînons pas notre esprit à transformer ce comportement-là, même si nous ne voulons plus accomplir d'actes négatifs, par exemple sous l'emprise de la haine, de l'aversion, etc., le jour où l'aversion va s'élever dans notre esprit de façon extrêmement puissante, eh bien ça nous emportera, mais alors vraiment comme un feu qui brûle absolument tout, et on se retrouvera en se disant, ben ouais, je n'ai rien contrôlé, quoi. Donc nous ne sommes absolument pas libres dans cette façon de fonctionner. Donc dans un premier temps, il faut regretter ces actes négatifs. Il faut voir notre esprit comme étant malade lorsqu'il accomplit ses actes négatifs. Et plus cette compréhension va se développer, plus nous pourrons voir que quelqu'un qui occasionne la souffrance pour autrui est comme un malade. Il n'est pas libre de son esprit. À la limite, il ne pouvait pas faire autrement. Son esprit était complètement pris par la haine, par exemple. Attendez, les guerres, c'est ça, quoi. La haine entre deux personnes pendant des années, pendant des dizaines d'années, hein, que peuvent entretenir deux personnes, par exemple, ou deux familles, etc. Mais c'est simplement l'esprit de ces personnes qui sont sous l'emprise de ces facteurs perturbateurs extrêmement puissants. Le deuxième point, c'est s'engager à ne pas en commettre de nouveau dans l'avenir. Bon, ça rejoint la force de la détermination. Ça fait partie de notre éthique. L'éthique bouddhiste, elle se base là-dessus. Je prends conscience que j'ai accompli des actes négatifs, mais je prends la décision, eh bien, de ne plus les accomplir. Bien, mais ça, il faut que ce soit décidé une bonne fois pour toutes, hein. Mais pour ne plus les accomplir, il faut renoncer en fait à se laisser aller aux facteurs perturbateurs qui sont la cause de ces actes négatifs. Et enfin, la quatrième sorte de renoncement, c'est de... C'est pas vraiment c'est dans le sens de renoncer aux facteurs perturbateurs. Cela implique de développer les tendances positives contraires aux facteurs perturbateurs auxquels on renonce. Et la bodhicitta, elle s'inscrit dans cette attitude-là, dans ce quatrième point. C'est de développer les qualités qui sont présentes dans notre esprit. Et ça fait partie de notre de notre pratique, le développement de tous les aspects positifs de notre esprit. Mais faut-il encore avoir conscience, de façon sûre, que nous avons des qualités, des aspects positifs dans notre esprit. Vous avez des personnes qui ne mettent l'accent que sur leur aspect négatif. Laissez un peu tomber tous vos aspects négatifs. C'est très bien d'y renoncer, c'est très bien de s'engager à ne pas les développer, mais mettez beaucoup l'accent sur tout ce qui est positif en vous. Et développez plutôt ces aspects-là, quoi. Prenez conscience que vous avez de l'amour. Prenez conscience que vous avez de la bienveillance, que vous avez de la compassion. Vous êtes capable d'aimer quelqu'un, vous êtes capable de faire n'importe quoi pour que la personne que vous aimez ne souffre plus, souffre moins, ou, etc. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très puissant dans notre esprit. Alors, plaçons notre esprit plutôt sur cette potentialité positive présente dans notre esprit. Et trouvons à partir de là les conditions pour développer ces qualités. Qu'est-ce que je dois mettre en place aujourd'hui pour développer davantage d'amour, davantage de compassion? Et pas seulement en termes de souhaits, pour les souhaits pour que la paix dans le monde se développe. Mais concrètement, là où je vis, avec les personnes avec qui je vis, qu'est-ce que je dois mettre en place pour que mon attitude soit un peu plus bienveillante? Comme disait le Karmapa à Berlin, il disait, posez-vous la question de savoir ce que vous mettez en place pour qu'il y ait un peu moins de souffrance dans votre entourage et un peu plus de bonheur. Et dans votre entourage, il disait. De façon concrète, là aussi. On devrait en fait se poser la question tous les soirs avant d'aller se coucher, quoi. C'est de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour qu'il y ait moins de souffrance et un peu plus de bonheur. La voie du bodhisattva, et là on parle du bodhisattva même si on est dans des façons de fonctionner, de transformer l'esprit selon le petit véhicule. Mais la voie du bodhisattva, c'est quelque chose d'absolument concret. Je ne sais pas pourquoi les Français sont, paraît-il, dans le monde le peuple le plus pessimiste. Et il n'y a pas que de la misère, il n'y a pas, je veux dire, que des attitudes négatives, noires, etc. Vous avez plein de petits îlots de lumière partout autour de nous, quoi. Vous avez plein de personnes, et ici pareil, il y a plein de personnes qui font quelque chose dans la journée pour que ça aille mieux. L'autre jour, je participais à une marche à Strasbourg interreligieuse pour la fraternité. Donc les 7 religions présentes en Alsace, il y avait l'archevêque de Strasbourg, les musulmans, toutes les 7 religions vraiment présentes installées en Alsace. On a fait une marche, il y avait 500 personnes, c'était le soir. On est allé jusqu'au Conseil de l'Europe. Les 7 représentants de ces différentes religions ont pris la parole avant que la représentante du Conseil de l'Europe prenne la parole. Et la parole, avant elle, a été donnée à une jeune fille qui était présidente de l'association Coexister. Et Coexister, c'est une association nationale qui est présente à Strasbourg depuis seulement un an. Mais cette association, elle ne rassemble que des jeunes qui ont envie de faire quelque chose de positif dans leur quotidien. Bon, y a plein de petites lumières comme ça autour de nous, dans notre vie, quoi. Alors prenons soin plutôt de ces lumières-là, mettons l'accent sur tout ce qui se fait de positif en nous et autour de nous, plutôt que de voir toujours ce qui ne va pas, comment l'autre a réagi, et de ne voir que du négatif partout. Oui, il y a du négatif, mais il n'y a pas que du négatif. Il y a aussi plein de positifs. Et c'est important de voir ça comme ça, parce que ça touche ce qu'on appelle notre nature de Bouddha. Ça touche les qualités qui sont en nous. Nous pouvons développer ces qualités-là. Nous pouvons les développer, peut-être de pas grand-chose, mais nous pouvons les développer dans notre quotidien et là où nous vivons, quoi. Ça fait partie de notre éthique bouddhiste, ça aussi. C'est une attitude que nous devons, en fait, développer. C'est la bodhicitta. Un bodhisattva ou le développement de la bodhicitta ne peut pas se baser sur une non-prise de conscience de cette potentialité d'amour et de compassion et de bienveillance qui est en nous, quoi. Si nous sommes absolument certains que nous sommes noirs, nuls, mauvais, intrinsèquement, etc., qu'est-ce que vous voulez aider les autres si vraiment il n'y a que de la noirceur et vous ne mettez que l'accent sur la noirceur qui est en vous? Il y a cet aspect négatif, il y a cet aspect facteur perturbateur, d'accord, mais il n'y a pas que ça, quoi. C'est très important pour notre pratique du Dharma. Toute la pratique du Dharma se base sur cette nature de Bouddha. Cette nature de Bouddha, eh bien, elle est décrite comme ayant des qualités d'amour, de compassion, de bienveillance. Eh bien, nous avons tous ces qualités-là. Donc, nous avons tous cette nature de Bouddha. Un bodhisattva, c'est quelqu'un qui s'appuie sur cette nature de Bouddha. Il a confiance dans sa nature de Bouddha et il peut la développer au service d'autrui, quoi. Alors Rinpoche conclut en disant que par ce type d'observation du fonctionnement de l'esprit, eh bien, on atteint l'état d'arhat. Alors l'état d'arhat, hein, c'est cet état qui est l'objectif du Theravada. D'après les Mahayanistes, hein, les pratiquants du grand véhicule, l'état d'arhat n'est pas la libération ultime. Bon, écoutez, hein, si déjà on atteint l'état d'arhat, on verra ce qui se passera après. Mais ça sera déjà pas mal, quoi. Il me semble. Alors le mois prochain, on verra comment dans le Mahayana, eh bien, on aborde la façon de travailler sur l'esprit par rapport à ces facteurs perturbateurs. Mais vous verrez que on ne peut pas utiliser les méthodes propres au Mahayana et encore moins les méthodes propres au Vajrayana si les méthodes propres au Hinayana ne sont pas quelque chose d'installé dans notre esprit. Donc dans le mois qui vient, essayez de repenser à ça, de reprendre vos notes et de porter votre attention sur ce fonctionnement de l'esprit tel que c'est décrit dans le Theravada. C'est une bonne base, et c'est une base en tout cas nécessaire pour travailler différemment selon les autres véhicules par la suite, quoi. Il y a trop de personnes dans le Mahayana et surtout dans le Vajrayana qui disent « Oh, le Theravada, ce n'est pas pour moi, c'est bon pour les Thaïs, c'est bon pour les Laotiens, c'est bon pour les Cambodgiens, moi je transforme tout. » Le pratiquant qui vient me voir et qui dit « Moi je transforme tout, donc je me laisse aller à tous les facteurs perturbateurs », j'ai envie de lui dire « Prenez les vœux de moine, vous verrez si vous transformez. » Il y a beaucoup de personnes qui disent ça, qui disent « Oh, par exemple, je n'ai pas besoin des vœux de moine. » Ça me fait penser à l'ancien Kalo Rinpoche, hein. Quelqu'un était allé le voir en lui disant « Moi, je n'ai pas besoin des vœux de moine puisque je suis dans le Vajrayana. » Rinpoche lui a répondu « Vous n'en avez pas besoin, prenez-les et vous verrez si vous n'en avez pas besoin. » Si nous n'avions pas besoin de cette base du Hinayana pour notre pratique, eh bien effectivement, les vœux monastiques n'existeraient pas dans le bouddhisme tibétain. Les vœux de fidèles laïcs n'existeraient pas dans le bouddhisme tibétain. S'ils existent, c'est qu'ils doivent servir à quelque chose. Donc nous en avons tous besoin. En tout cas, nous avons tous besoin de développer cette éthique par rapport à cette façon de travailler sur notre esprit selon le Theravada. Avez-vous des questions ? Ah oui. Oui.
Je ne sais pas ce que c'est.
Vous n'étiez pas là le mois dernier ?
Si, je ne sais pas bien. Je suis désolée.
Les vœux de fidèles laïcs.
Voilà, c'est ça.
Les vœux de fidèles laïcs, c'est en fait des vœux que les laïcs peuvent prendre sans être moines, sans entrer dans la voie monastique. Mais c'est des vœux qui existent pour les laïcs de façon à ce qu'ils puissent travailler sur tel ou tel aspect de leur conduite éthique. Et le premier de ces vœux, c'est ne pas tuer. Avec la motivation de ne pas tuer. Hein. Ne pas tuer, même un insecte, même un animal. Donc c'est plus large que simplement tuer quelqu'un. Hein. Le deuxième vœu, c'est de ne pas mentir. Donc l'attention de la parole, par exemple. Il y a le vœu de ne pas voler. Et comme je disais le mois dernier, ne pas voler, ça ne consiste pas à ne pas faire une banque demain matin. Mais c'est comment dans notre vie quotidienne ne pas prendre ce qui ne nous est pas donné. Donc c'est une application quand même beaucoup plus large. Être conscient de notre attitude. Ensuite, il y a le vœu de ne pas avoir d'inconduite sexuelle. Dans la voie monastique, bon, ben, il n'y a pas de sexualité. Hein. Mais en tant que laïc, c'est aussi comment dans notre conduite sexuelle, eh bien, nous nous efforçons de ne pas être cause de souffrance pour autrui. Et puis, il y a le vœu de ne pas absorber d'intoxicants dans le sens où perturber notre esprit de par des drogues ou par l'alcool. Voilà. Ça, c'est les vœux de fidèles laïcs. Et la personne qui veut prendre ses engagements, elle n'est pas obligée de prendre les 5 vœux. Elle peut en prendre 1, elle peut en prendre 3, comme elle veut. Et pour la durée qu'elle détermine, elle. Ouais. Voilà. Mais sachez que ça existe aussi chez les laïcs, ce type d'engagement, quoi. Voilà. Tout ça, c'est en fait les vœux. À quoi servent les vœux? Ça sert à l'apprentissage, eh bien, de la discipline de l'esprit. Parce que quand vous prenez un engagement de ne pas tuer, si vous avez un moustique, vous avez le vœu, ben ça vous demande à réfléchir et trouver une autre solution pour éliminer le moustique de chez vous que de simplement faire ça, quoi. Parce que si vous faites ça, eh bien vous brisez votre vœu. Donc ça vous oblige à voir votre esprit, à établir une attention dans votre esprit. Et toutes sortes de vœux, en fait, même dans les autres véhicules, même dans les vœux du Bodhisattva ou les vœux du Vajrayana, en fait, toutes sortes de vœux, c'est en fait pour établir cette attention, être conscient du fonctionnement de notre esprit, prendre conscience de ce fonctionnement-là. Donc, il faut voir les vœux comme étant une aide. Parce que vous êtes obligé, quand vous avez un vœu, vous êtes obligé, eh bien, de voir comment vous allez réagir dans cette situation-là. Parce que sinon, vous brisez votre vœu. Alors, voilà.
Pour démarrer, on est obligé de prendre une certaine... Comment se faire ne pas tuer et...
Non, vous prenez le vœu ou les vœux qui vous semblent être utiles pour travailler sur votre esprit. Voilà. Il y a des personnes qui peuvent prendre un vœu pour 8 jours, pour un mois, pour 6 mois, pour un an. mais en tout cas pour la durée aussi que la personne détermine elle-même.
C'est un peu comme la prise de refuge.
Il faut aller voir le lama et lui dire, voilà, je voudrais prendre ces vœux-là. Pas besoin d'expliquer pourquoi, mais je voudrais prendre ces vœux-là. Et alors, il y a un petit rituel. Parce que ça formalise aussi l'engagement. C'est quelque chose qui peut être plus fort que de simplement se dire, bon, bah, ok, je prends ce vœu-là ce matin, je prends ce vœu, par exemple, de ne pas tuer. Pardon ? Si on brise un vœu, mais c'est des enfers assurés. Comment ? Alors, Kalo Rinpoche disait, il ne faut pas le briser. Ça peut arriver. Ben, il y a des façons de purifier ça. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. En fait, c'est très, très difficile de ne pas endommager ou ne pas briser ce type d'engagement. Et vous savez, on porte surtout notre attention sur les vœux de fidèles laïcs ou les vœux monastiques. Parce que quand on prend les vœux monastiques, on est habillé différemment, bon, voilà. Mais je trouve que les vœux de Bodhisattva, c'est beaucoup plus difficile à tenir que les vœux monastiques. Parce que les vœux de Bodhisattva, par exemple, vous avez la moindre pensée négative vis-à-vis d'un être. Ça brise les vœux. On les brise à longueur de journée. Donc il y a une façon de les renouveler aussi, hein, ceux-là. Voilà. Les vœux du Vajrayana, c'est très difficile à tenir aussi. Donc il ne faut pas se dire, bon, oh, je risque de les briser, donc je ne vais pas les prendre. À cela qu'Alo Rinpoche disait, le jour où vous allez les tenir de façon très pure, vous n'aurez plus besoin de les prendre. Quand on avait pris les vœux de moine, il nous avait dit ça. Il nous avait dit, le jour où vous serez vraiment moine, c'est le jour où vous réaliserez l'éveil. Et c'est sûr, c'est vrai. Et voilà, les différents types de vœux, eh bien, c'est en fait pour nous obliger à établir cette attention dans notre esprit, à notre comportement. D'où l'entraînement de l'esprit, d'où la discipline. Voilà. Discipline, c'est un mot qu'on n'aime pas trop. Et, mais voyez ce mot-là autrement. Discipline, il y a le mot disciple. Nous suivons cela parce que nous sommes disciples du Bouddha. Qui n'a pas de discipline dans une activité mondaine? Qui n'a pas de discipline dans un sport? Qui n'a pas de discipline dans une activité artistique? Qui n'a pas de discipline dans ses études? On développe la discipline pour des tas d'accomplissements mondains, je veux dire, pour des objectifs mondains. Donc nous avons besoin d'une discipline aussi pour transformer notre esprit de façon à ce que notre esprit se libère. La libération ne peut pas se faire comme ça, par miracle, par la bénédiction du Dalai Lama, parce qu'on est un jour face au Dalai Lama et qu'il nous pose sa main sur notre tête, alors tout est transformé dans notre esprit et tout à coup, ça y est, c'est tout fait. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça demande un entraînement. Le Bouddha n'a jamais dit que c'était facile, hein. Mais si demain vous voulez, jouer du piano comme un tel ou être un grand sportif, etc., personne ne vous dira que c'est facile.
Mais la différence, entre guillemets, c'est qu'on voit une progression physique peut-être plus rapide. quand on va apprendre à jouer du piano, quand on est...
Pour certains, pas vraiment. Hein.
Ah oui.
Mais oui, ouais. Mais je crois voilà, que...
On se part petit bout, mais il y a des fois, on se dit, on a l'impression de stagner, de...
Mais je crois que, alors ça, ça là vous touchez, je dirais autre chose, qui est pareil pour faire ses gammes, ouais. Pour apprendre le piano, c'est la régularité. Hein.
Ouais.
C'est vraiment la régularité.
C'est le plus difficile, en définitive.
C'est le plus difficile.
Ouais.
Et c'est le plus difficile pour nous occidentaux, surtout pour nous occidentaux.
Très difficile. Discipline, c'est vraiment.
Parce que notre esprit est toujours attiré par autre chose. Le mantra qu'on récite le plus souvent en Occident, c'est « je n'ai pas le temps ». Et pourtant, c'est la régularité, c'est la répétition qui fait qu'au bout de quelques mois, on voit qu'il se passe quelque chose dans notre esprit. On voit bien les anciens qui méditaient là depuis... quelques années, voyez comment vous réagissez dans certaines situations aujourd'hui et dites-vous comment est-ce que quand j'ai commencé, quand j'ai découvert la méditation, est-ce que j'avais cette tendance à réagir de la même façon ? Mais vous voyez une différence.
Oui.
Voilà, donc il y a quelque chose qui se passe quand même dans l'esprit.
Mais vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure, c'est de vraiment constater les points positifs, quoi.
Oui, mais ça j'insiste souvent là-dessus.
Parce que chaque jour, voir ce qu'on a fait de bien, et personnellement, ça m'a énormément aidé. Je ne voyais que les choses, ouais, j'ai pas fait ça, ouais, j'ai encore pas médité, machin. Et à la fin de la journée, quand on voit, ouais, mais tiens, aujourd'hui, t'as fait une minute, deux minutes, une heure, t'as fait attention.
T'as... Eh oui, ouais, oui. Et ouais, en fait, dans notre journée, mais il y a des tas d'attention qu'on a pu porter, des tas de choses positives qu'on a pu faire, donc on n'est pas si nul que ça, quoi.
Oui, mais c'est aussi l'éducation. La culpabilité, machin, etc.
Et voilà.
Qui fait que. Ouais. Qu'on a, ah non, non, faut que tu te prends.
C'est ça. Pas... Ouais. 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 Mais la voie spirituelle, c'est. Ça bouscule tout, quoi. Hein, dans notre esprit, dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de. Ça peut bousculer les valeurs qu'on a reçues de par notre éducation ou par notre culture, etc. Ouais. Donc c'est pas toujours facile, confortable, ça déstabilise certaines choses. Mais cette façon de nous considérer toujours comme étant négatif ou je sais pas d'où ça vient dans notre culture, peu importe. Mais c'est quelque chose qui est très fort en Occident, quoi. C'est très fort en Occident. Et c'est un gros problème, quoi. C'est
un peu comme de l'orgueil aussi, des fois. Il y a certaines personnes qui prennent ça pour...
La culpabilité, par exemple, oui, c'est une trace d'orgueil. Ouais. C'est un aspect de l'orgueil. Mais c'est pas... Moi, je constate que... Plus je rencontre de personnes en Inde qui font des choses, plus ils ont du bonheur dans les yeux, quoi. Et c'est de la joie, c'est du bonheur de faire quelque chose pour autrui. Ils n'en font pas plus que nous, hein, mais ils le vivent différemment. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on ne peut pas transformer le monde et être parfait, vouloir sauver le monde, etc. Mais ce que l'on peut faire dans la journée, alors non seulement nous devons le faire, mais ça nous apporte aussi de la joie, quoi, de l'avoir fait. Et ça, c'est pas de l'orgueil, c'est pas de la saisie, c'est pas, oh là là, c'est mon ego qui récupère tout, et allez, et on est reparti dans ce truc-là, oh mais c'est mon ego qui s'exprime, et c'est de l'orgueil, etc. Non, on peut se réjouir. Ringo Rinpoche nous disait, mais quand vous avez fait quelque chose de positif, mais tapez-vous sur l'épaule, quoi. Il n'y a pas de mal à ça. Quand vous observez la vie des bodhisattvas accomplis, qu'ils aient une étiquette bouddhiste ou une autre étiquette ou sans étiquette, peu importe. Il y a quelque chose que vous constatez chez tous ces êtres-là, c'est qu'il y a une confiance, pour ne pas dire une foi, à l'intérieur d'eux-mêmes, et qui fait que effectivement ils ont pu faire ce qu'ils ont fait. Ils y croyaient à fond, quoi. Et ils ont rencontré des obstacles. Mais c'est cette confiance intérieure, indestructible, vraiment très, très puissante, qui leur permettait de dépasser tous ces obstacles. Alors même si c'est à une autre échelle que nous pouvons agir, mais ayons cette confiance, parce que c'est la confiance dans notre nature de Bouddha, quoi. Et ça, c'est un paramètre absolument indispensable pour pratiquer le Dharma, puisque le Dharma repose sur le fait que tous les êtres ont cette nature de Bouddha, tous sans exception, même le pire des humains, quoi. Mais commençons à l'avoir en nous-mêmes, parce que le jour où nous en serons vraiment conscients et confiants, nous pourrons l'apercevoir chez l'autre. Autre chose ?
Je veux juste vous remercier parce que ça fait vraiment du bien de ce soir d'entendre tout ça. Redonner du positif et là, ça fait du bien.
Merci. Et vous savez, je ne sais pas si je vous ai expliqué ici, mais il y a un jour en retraite, je ne pouvais vraiment pas sentir un des retraitants, quoi. Il y en avait un qui, alors vraiment, il a fait travailler tout le monde. Et c'était bien qu'il soit là, parce que en général, dans une retraite, il y en a toujours un qui est là pour faire travailler les autres, quoi. Mais je dois dire qu'il m'avait... Il me faisait bien travailler, quoi. À tel point que pendant 3 jours, je le découpais en morceaux, quoi. Mais vraiment, je l'empalais, vous savez, c'est là où vous voyez la force de l'esprit, quoi. Vous n'avez rien d'autre à faire en retraite. Vous êtes assis dans votre caisse, au lieu de réciter le mantra qu'il fallait réciter à ce moment-là. Quand j'étais là, je me disais, mais pourvu qu'il crève, ça veut dire. Et vous vous réveillez le matin, toujours avec la même pensée. Parce qu'il n'y a pas de télé, il n'y a pas de journaux, il n'y a pas de bouquins pour distraire tout ça, hein. Donc en fait, vous vous rendez compte que dans l'esprit, c'est toujours là, quoi. Et à un moment donné, au bout de 3 jours, mais j'ai vraiment déprimé, quoi. Je me suis dit, mais t'es nul, quoi. T'es là pour développer la bodhicitta, et tu ne développes que des pensées négatives vis-à-vis de ce bonhomme. Et à un moment donné, c'était... il fallait que je fonctionne autrement, quoi. Et je me suis dit, oui, t'es nul, mais est-ce que vraiment tu n'es que nul, quoi? Il y a ça dans ton esprit, mais est-ce qu'il n'y a que ça dans ton esprit, quoi? Eh ben non. Il m'est arrivé d'aimer quand même quelqu'un. Encore maintenant, je peux encore aimer quelqu'un, etc. Je peux avoir un peu de compassion, un peu de bienveillance pour quelqu'un. Et je me suis dit que, oui, il y avait ça qui était là dans mon esprit, mais il y avait aussi autre chose que je ne voyais pas. Et à ce moment-là, vous prenez conscience qu'il y a ça. Eh ben alors, vous prenez soin de ça. Et vous mettez toute votre énergie, toute votre pratique, mais pour développer ça. Et plus vous le développez, plus l'autre aspect, mais en fait, ça diminue. Et ça, c'est, il faut le vivre, il faut l'expérimenter. Parce que ce jour-là, mais vous êtes absolument convaincu que, eh bien, il y a des aspects négatifs dans votre esprit, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a aussi plein d'aspects positifs. Et vous ne pouvez pas développer la bodhicitta si vous ne prenez soin que des aspects négatifs. Il faut purifier, 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 purifier. Ben oui, mais toujours purifier le noir, le noir, le noir. Mais occupez-vous donc du blanc. Et parce que vous en occuperez, ça purifiera le noir.
Comment ça se passe concrètement ?
Alors, soit pour une retraite individuelle ou pour un week-end de pratique. Parce que vous avez.
Ah, c'est le week-end, je suis jamais venue. Et...
D'accord. Il y a des week-ends de proposés avec un thème de pratique. Donc il y a une session le matin à 7h, une session ensuite à 9h. Alors il y a session et enseignement pendant la session de 9h. Ensuite il y a à nouveau une session à 3h l'après-midi avec enseignement. Et puis une dernière session à 18h de méditation. Donc il y a quand même plusieurs sessions de méditation dans la journée. Après, ça dépend s'il y a beaucoup de monde, s'il y a peu de monde, mais ça, comment dire, on peut échanger, on peut garder le silence si on a envie de garder le silence, on peut aller se balader en forêt si on a envie de se balader aussi en forêt. Et le principe des week-ends qui sont inscrits dans le programme pour Luce, c'est quand même des week-ends de pratique. Donc, on va placer maximum d'attention sur la pratique elle-même et sur l'observation de notre esprit. C'est pourquoi on demande, même si c'est difficile, mais on demande de plus en plus qu'il y ait le silence le plus possible. Alors, il y a à partir de 18h vraiment un silence imposé jusqu'au lendemain matin, mais dans la journée, même dans la journée, il serait vraiment bien, et j'insiste là-dessus, mais il serait vraiment bien que le dernier bouquin qu'on a lu, la dernière recette de cuisine, je ne sais pas quoi, enfin tout ce qui nous passe par la tête, mais on laisse de côté ça, quoi. Parce qu'on est là pour pratiquer et observer son esprit. Et si nous sommes aussi agités à l'us lors d'un week-end de pratique qu'on est agité dans la vie de tous les jours, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, je veux dire, on constate par exemple quand on médite 20 minutes et qu'on fait 5 minutes de pause. En 5 minutes, quelquefois, mais on a l'impression que tout le monde chatte, tout le monde... On a l'impression, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 20 minutes? C'était vraiment une cocotte minute qu'il faut que ça se défoule pendant 5 minutes ou quoi?
C'est...
Oui, sans doute. Je ne porte pas d'appréciation négative. Mais c'est très drôle de voir comment fonctionne l'esprit quand même. Le silence est quelque chose qui fait peur à beaucoup de personnes. Silence égale non-convivialité. Alors il y a déjà cet aspect-là. Et quand vous commencez à goûter le silence, et que vous voyez que vous avez besoin du silence pour observer l'esprit, eh bien vous en avez besoin, quoi. Et quand vous entendez l'autre qui parle du dernier film qu'il a vu, etc., je sais bien qu'il faut intégrer et faire avec. Mais des fois, vous avez envie de dire, je n'en ai rien à faire, quoi. Je ne suis pas là pour qu'on me raconte le dernier film au box-office. Voilà, j'insiste un peu là-dessus, mais voilà, c'est pour qu'il y ait des conditions quand même favorables à la pratique. Il y a des centres, hein, et je ne sais pas dans le Zen, est-ce qu'il y a des personnes ici qui fréquentent ou ont fréquenté des séchines ou dans des centres Zen? Est-ce qu'il n'y a pas le silence imposé quelquefois? Oh, je crois qu'on va prendre de la graine du Zen parce que... C'est ce qui a surpris le plus, je crois, Taillé, en sortant de retraite. Les paroles, quoi. Dès qu'il est sorti de retraite, il y avait 300 personnes à la sortie de retraite. Il m'a dit, mais c'est incroyable ce que les gens ont quelque chose à dire, quoi. Et puis après, il y a la possibilité de venir faire des temps de retraite, de quelques jours, d'une semaine, deux semaines, peu importe. Et ça, la personne, en fait, elle établit son programme à ce moment-là, elle-même. Et si elle a besoin de conseils, bon, ben, la Lama est là. Mais il faut concilier aussi des temps de pratique et puis des temps de détente. En week-end, il faut qu'il y ait aussi des temps de détente. Et la détente, c'est souvent le repos. Hein. C'est souvent le repos. Quand vous faites des pratiques intensives plusieurs heures par jour, vous savez, c'est pas un problème d'aller dormir une demi-heure entre deux sessions. Hein. Et vraiment, ça récupère l'esprit. Hein. Plus rien. On va faire la dédicace. Avant de faire la dédicace, s'il y a des personnes qui ont apporté un courrier pour un filleul à Bodh Gaya, le 14, la semaine prochaine. Alors, si vous voulez, vous pouvez encore l'envoyer à Luce. Mais à Luce, pas au siège de l'école à Bodh Gaya, hein, de l'association, parce que demain je suis à Meudon et on va me remettre tout le courrier qui est arrivé à Meudon. Donc si vous voulez, eh bien, envoyez ça à Luce, hein, au nom de la Matsultrim, et puis je ferai le facteur. Oui ? Est-ce que... Non, complet. Ouais. Ça a été assez vite... Mais là, c'est complet, complet. Ouais.
Qu'est-ce que c'était qu'on voyage ?
Pardon ?
Hormis le fait d'aller en Inde, qu'est-ce que c'est qu'on voyage ?
Alors là, je vais seul là, deux semaines en Inde, à Bodh Gaya. Mais au mois de mars, il y a un voyage pèlerinage d'organisé. Et là, on est 30 personnes, mais le groupe maintenant est complet. On a limité à 30. Et là, c'est sur...